2. Devoir du bien. Sainteté. L'idéal de sainteté. En face de la méchanceté extrême en pratique, scélératesse, qui accomplit l'idéal négatif qui préside à la volonté mauvaise, il y a l'idéal positif de sainteté devant gouverner la bonne volonté. Saint. C'est ce que serait l'homme si tous ses actes étaient le fruit de maximes rapportées à la loi du devoir, à l'impératif catégorique de bien faire. Il est d'autres idéals. L'immortalité de l'âme, la création du monde et l'existence de Dieu. À ceci, la faculté morale, volonté, impose d'y croire fermement, bien qu'on n'en ait aucune expérience en ce monde. L'idéal de sainteté est tout autre et unique en son genre. C'est bien un idéal, puisqu'il ne peut exister de saint accompli en ce monde. Mais pourtant, cet idéal est aussi très réel, dès à présent, puisqu'il prescrit tout ce que nous devons faire, nous dicte la voie que nous devons prendre dans notre conduite, nous enjoint de nous en pénétrer dans tous nos actes. L'idéal de sainteté est pratique. En effet, j'appelle pratique tout ce qui est possible par la liberté. Dieu, saint absolu. Il n'y a qu'un mystère, c'est Dieu en lui-même. Mais nous pouvons très bien concevoir Dieu par son attribut essentiel, la moralité sans borne. À ce titre, en tant que saint absolu, Dieu intelligible pour nous, il est son propre Fils unique, l'âme de la personne première. Moi. Par suite, c'est ce saint absolu que l'on doit dire créateur. La création devant être le miroir reflétant la lumière divine. Enfin, au sein de la création, c'est en l'humanité que la sainteté divine est venue s'insinuer comme idéal réel, sans qu'on puisse comprendre comment elle a pu habiter une créature mortelle. Mais la nécessité pratique de cet idéal en nous est incontestable, de sorte qu'il nous faut en rendre compte par une image. La sainteté absolue s'abaissant jusqu'à s'humaniser, afin que l'humanité puisse se diviniser, s'élever jusqu'à Dieu. Par cet idéal réel de sainteté, nous savons tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu. Nous prenons connaissance de sa volonté, et dans l'obéissance à cette volonté, nous aimons Dieu de la seule manière qui soit digne de lui. Enfin, par notre proclamation de l'attribut essentiel de Dieu, nous nous élevons jusqu'au seuil de son mystère. Bref, par notre adhésion effective à l'idéal de sainteté qui se trouve en nous, nous possédons le seul et vrai moyen de nous faire enfants de Dieu, et donc de nous trouver en l'autre monde parmi ses agréés. Le type de saint, Josué. Dans notre condition de mortel, où nous sommes dépendants de penchants et de besoins, notre idéal moral doit prendre appui sur un type concret qui lui correspondrait. Ce type sera celui du héros parfait du bien, Josué. Se montrant tout à la fois un pur animal humain par un côté et le saint absolu lui-même par un autre côté. d'où les plus violents et incessants combats acceptés qu'on lui verra livrer, jusqu'à la mort la plus infâme, contre le penchant au mal. Et ceci tournant finalement à son triomphe, dans la perfection morale, pour le bien même de ses ennemis. C'est ce besoin que nous avons du type parfait d'un héros du bien qui a fait adopter le mythe d'une incarnation de Dieu dans le temps de ce monde. Bref, seul l'homme qui a foi en l'idéal réel du saint absolu et qui, dans sa conduite, suivrait fidèlement l'exemple du héros parfait du bien, lui seul est en droit de se croire digne de la bienveillance de Dieu. Justification, l'agrément divin. Le problème. La foi en l'idéal réel s'impose à tout croyant conséquent. Mais, nous qui sommes si imparfaits, et savons très bien qu'une vie totalement exempte de fautes nous est impossible, nous est-il permis d'espérer être jamais justifiés? Il y a deux aspects du problème. Certes, en ce monde, celui-là même qui épousera vraiment l'idéal de perfection morale, et lui seul le sait, et non pas les autres, ne peut être dupe du fait qu'il ne pourra qu'avancer du moins bien au mieux, sans jamais réaliser pleinement son idéal, alors que les autres peuvent s'y tromper. Mais qu'en pense Dieu ? Lui qui scrute les cœurs, et par le fait même qu'il est le bien absolu, retiendra, premièrement, la conversion authentique qui s'est produite dans la personne, et deuxièmement, l'intention pure qui a marqué la progression soutenue du moins bien au mieux de la conduite du croyant. La vie de ce dernier, prise comme un tout, obtiendra ainsi l'agrément divin. Bref, l'adoption de l'idéal réel de sainteté et sa traduction dans les actes est le critère et le seul nous permettant d'espérer que nous serons jugés saints par celui qui est la sainteté même, malgré notre imperfection inévitable de mortel. Deux autres difficultés. C'est bien la foi qui justifie et sauve, comme le disent saint Paul et Luther. Mais comment être assuré que nous avançons sans cesse et toujours plus sur le chemin de la sainteté ? Les œuvres. La pure bonne volonté d'aujourd'hui ne garantit aucunement la persévérance dans le bien pour demain. Elle peut même provoquer une dangereuse confiance en soi-même. Gardons donc toujours à l'esprit que notre état d'aujourd'hui n'est dû qu'à notre révolution morale initiale. Alors, nos résolutions futures, prises comme sous l'effet d'une fraîche conversion, trouveront assurément le moyen de persévérer, aidées de la bonté divine. La plus grande difficulté est la suivante. Même en persévérant fermement dans le bien, nous nous sommes donné le penchant au mal avant de naître, nous rendant de ce fait méchants par nature. C'est là une dette qu'il nous est impossible d'acquitter après notre naissance. Et encore moins une personne étrangère peut-elle payer la dette à notre place, aussi innocente et généreuse qu'elle puisse être. Confère, rançon de Jésus-Christ pour nous. Alors, la réponse à cette difficulté est celle-ci. D'une part, Dieu veut effectivement que tout mal soit puni. D'autre part, en quoi consiste finalement la conversion ? C'est un sacrifice en soi. Le dépouillement du vieil homme pour revêtir le nouveau. En cela, chaque converti se trouve être un Josué mortel. sa décision est prise de punir sans relâche sa liberté souillée par le penchant au mal. Le vrai croyant, en punissant les actions mauvaises qu'il a pu commettre, vise la volonté mauvaise qui en fut la source, et ce faisant, le combat qu'il mène est celui de sa liberté, entreprenant de triompher sur elle-même. Par là donc, il peut espérer que la justice de Dieu sera satisfaite. Bilan sur la justification de l'homme coupable. Tout repose sur la conversion, l'adoption de l'idéal réel de sainteté. Ensuite, le converti doit modeler sa conduite sur celle du héros parfait de sainteté, Josué. Ces deux conditions réunies, le saint absolu, fils unique de Dieu, engendré et non créé, la personne première, nous sanctifie, pardonne et justifie, et supplée à nos actes défectueux. Il nous accorde aussi l'assistance nécessaire pour persévérer. Enfin, il nous délivre de la dette du penchant au mal que nous nous sommes donnés. C'est à partir de ce qui vient d'être dit qu'il faut comprendre les vieilles idées en théologie de rédemption d'un sauveur, et en morale, l'idée d'expiation, de rémission des péchés. Il est clair que toute absolution ne peut venir que d'un changement sincère du cœur. Aucune pénitence, aucune invocation, même celle adressée au type du saint, ne peut épargner cette nécessaire révolution morale personnelle. La question de la justification, une fois établie sur sa vraie base, il en résulte pour le croyant deux choses. D'une part, il trouve une consolation religieuse rationnelle, exempte de superstitions grossières. D'autre part, il s'impose un jugement sévère de lui-même qui le préserve d'une fausse et assoupissante sécurité. La Bible. Ancien Testament. La Genèse juive expose la lutte entre le bien et le mal comme un récit se déroulant dans le temps de ce monde, durant la vie même d'Adam et Ève. De plus, ce combat est donné comme celui de deux personnes extérieures à l'homme, Dieu et le diable, alors qu'il s'agit de deux dispositions intérieures à l'homme, aussi opposées que le ciel et l'enfer. Le même récit nous raconte que, dans un premier temps, la terre avait été donnée à l'homme comme un fief donné à un vassal par son suzerain. Puis, dans un second temps, Dieu ayant dû dépouiller un autre de ses vassaux, devenu félon de son domaine qui était le ciel, ce dernier, Satan, entreprit de conquérir la terre. Or, comme Satan était une créature spirituelle, sans corps, il ne pouvait jouir directement des fruits de la nature. Il lui fallait donc se rendre maître de l'âme de l'homme, usufruitier de la terre, et amener ainsi Adam à forfaire son fief. Et c'est ce qui arriva. Satan devint le prince de ce monde, comme dit Jean en chapitre 12, verset 31. Et comme Adam fut le père de l'espèce humaine, en chacun de ses descendants, le penchant au mal prima sur l'impératif du bien. Cependant, selon l'Ancien Testament, Dieu fit en sorte que la loi du devoir fût conservée chez les Hébreux, au moins dans le cadre d'une théocratie où le nom de Dieu était crié publiquement. Mais l'âme de ce peuple ne renfermait que des motifs sensuels, et les fils d'Abraham n'étaient capables que d'une obéissance aveugle à des décrets. Par suite, la conduite des Juifs n'était faite que de contraintes extérieures et de rituels fatigants, sans aucune considération morale. Dans une telle situation, l'empire des ténèbres n'avait guère de soucis à se faire. Nouveau Testament. Il arriva que le peuple juif devint mûr pour une révolution religieuse, celle du christianisme. Pour cela, un homme extraordinaire se leva parmi eux. D'un côté, sa sagesse semblait divine, et de l'autre côté, sa personne était on ne peut plus naturelle, mais avec cette seule réserve qu'il paraissait en tout point tel Adam dans son premier état d'innocence. Du coup, ce Josué le Nazaréen, étant totalement étranger au pacte conclu entre Satan et l'Adam félon, le chef de ce monde vit son empire en grand péril. Que fit donc Satan ? Il proposa d'abord à Josué de devenir son comparse, de se faire son vassal dans la domination du mal. Mais cette combine ne marcha pas. Alors, Satan suscita contre Josué toutes les persécutions possibles qu'une personne dont la volonté est entièrement bonne peut endurer. La pureté de ses intentions fut calomniée à l'extrême, et pour finir, la mort la plus infâme lui fut infligée. Heureusement, la franchise sans faille et la persévérance indomptable de Josué condamnèrent à jamais les misérables juifs dont il ne voulait pourtant que le bien. Le récit de l'Évangile nous offre une illustration du héros parfait du bien qui nous sera toujours précieuse. Nous y trouvons exposé crûment l'opposition qu'il y a entre la liberté que connaissent les agréés de l'autre monde et l'esclavage dont souffrent tous les habitants de ce monde. Et puis, alors que les siens, les juifs, ont haï Josué, il y eut des chrétiens qui l'ont aimé et ont appris qu'il pouvait se faire enfant de Dieu. C'est ainsi qu'il y eut un vrai Israël, des disciples résolus à imiter la conduite de Josué, faisant face à des forcenés partisans de l'esclavage moral que Dieu condamne désormais à l'oubli total. Voilà ce que pensèrent les vrais fidèles de Jésus-Christ. Exégèse. Introduction. Ôtons à cette représentation vivante que nous venons de voir son enveloppe mystique, qui en fait le roman d'une époque où le peuple ne pouvait comprendre les choses autrement. Nous y trouvons alors un sens spirituel caché, valable pour tout le monde et en tout temps. Une théologie morale. L'idéal réel de sainteté se trouve en tout homme, et celui-ci doit tout faire pour le réaliser. Le côté naturel de l'homme en ce monde n'y met aucun obstacle, contrairement à ce qu'on a prétendu jusqu'à nos jours. Et pour la bonne raison que le désir du bonheur est légitime, pourvu qu'il soit subordonné au devoir moral. Le seul problème, et c'est le revers de la liberté humaine, est que nous pouvons mépriser notre propre idéal de sainteté et nous rendre délibérément esclaves du penchant au mal, ce qui nous garantit pourtant une destinée de récusés de Dieu. Mais il dépend de chacun de se convertir, et donc d'entreprendre de subjuguer ce même penchant et du même coup de purifier sa liberté. Empli de sa foi en l'idéal de sainteté, le converti n'a absolument rien à craindre du penchant au mal, comme dit Matthieu en chapitre 16, verset 18. Pourvu que sa conduite reste à l'unisson avec sa foi. Rompons donc avec les deux traquenards qui menacent le croyant, celui des cléricaux et celui des exaltés. Les cléricaux ne tolèrent qu'un culte ennemi de la foi, qu'une clientèle de superstitieux accablés de bondieuserie, qu'on déclare d'autant plus méritoires qu'elles sont plus ostentatoires. Les exaltés, eux, n'admettent qu'une foi affranchie de tout culte, qu'une troupe de fanatiques qui ne font que couvrir leur paresse militante d'une pseudo-profondeur intérieure. Les maximes concrètes que la faculté morale se donne dans l'action suffisent pleinement pour suivre la voie de la sainteté. Ceux qui réclament que ces maximes soient confirmées par des miracles ne font preuve que d'une impiété morale qu'on doit condamner sans hésitation. Une révolution religieuse. Quand une religion arrive à être envahie par les seules formalités du culte, c'est-à-dire à s'enjuiver, il est inévitable qu'une autre religion, fondée sur les seuls principes de la moralité, vienne relever le défi. Mais c'est alors que la populace demande à grands cris que les novateurs justifient leur mission par des miracles. Une ressource inoffensive peut être opposée à ces délires. C'est de présenter la révolution religieuse comme le rétablissement du modèle antique voulu par la Providence. Accepter une telle version des choses ne présente aucun danger, puisque la vraie religion est alors bel et bien mise en route et que l'adoption de l'idéal réel de sainteté lui garantit le succès. Peu importe donc, premièrement, que le type du héros parfait du bien correspondit ou pas à un personnage historique nommé Josué, peu importe même que, deuxièmement, l'évangile qui raconte tout cela soit ou non un livre miraculeux. Qu'il nous suffise de respecter sans retenue cet écrit impérissable en tant qu'il expose, si on le lit comme il faut, ce qui se trouve sans prodige aucun dans l'âme même de chaque personne. Bref, à aucun point de vue, les miracles ne font partie de la religion. Et rien de ce qui s'y rapporte ne contribue à nous rendre agréables à Dieu. Combattons de toutes nos forces cette opinion, et, parce que sans ce moyen, nous pouvons réellement devenir meilleurs, et parce qu'avec ce moyen, on ne peut jamais y parvenir.